Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue à tous à l'écoute de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. La saison des festivals du début de l'automne touche maintenant à sa fin, le festival Passion Baroque de Montauban se terminant ce week-end, même si Toulouse-les-Orgues se poursuit lui encore jusqu'au 17 octobre. On pourrait donc croire que l'espèce de frénésie des dernières semaines va désormais se calmer, que nenni, l'agenda musical demeure foisonnant et il devrait le rester peu ou prou d'ici la fin de l'année. Tant mieux pour nous et tant mieux pour cette émission où j'accueille de nouveau aujourd'hui mon fidèle complice Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, un autre Serge est de retour à Mélomanie, Serge Krichewski, oboïste à l'Orchestre National du Capitole, chef de l'orchestre en harmonie, président du Festival Musique au Palais et vice-président des Clés de Saint-Pierre. Je vais d'ailleurs avoir bien besoin de deux Serges pour faire le tour de l'actualité musicale classique des derniers jours et celle des jours à venir, encore très dense comme vous allez pouvoir le constater. Nous allons commencer par les événements de la semaine qui se termine avec notre habituelle rubrique Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bonjour les Serges, bienvenue aussi à tous les deux. Nous allons d'abord revenir sur le premier opéra de la saison 21-22 du Théâtre du Capitole, La Gioconda d'Amilcare Ponchielli, dont la dernière représentation a eu lieu dimanche. Rappelons qu'il s'agissait d'une entrée au répertoire au Capitole pour cette œuvre, dans une version mise en scène par Olivier Py avec Béatrice Uria Monzon dans le rôle titre. Vous avez assisté l'un et l'autre à l'une des représentations. Quelles ont été vos impressions après avoir découvert cette production? Alors on va commencer par Serge Chosy.
Oui, alors effectivement, d'abord il faut se réjouir que Christophe Gristy l'ait enfin fait rentrer au répertoire du Capitole. C'est quand même un opéra important du 19e.
Près de 150 ans après sa création.
Tout ah non, ce qui est incroyable.
Et oui.
Remarquez, on a eu la création d'Orfeo de Monteverdi la saison dernière, ce qui est pas mal non plus. Mais donc pour cette Gioconda, ce qui a fait sensation, c'est évidemment la production d'Olivier Py, qui n'est pas traditionnelle, c'est le moins que l'on puisse dire, puisque c'est un metteur en scène qui aime bien triturer un peu les livrets, se livrer, c'est le cas de le dire, à non pas des transpositions, mais des symbolisations en quelque sorte. Et donc, pour ma part, j'étais un peu partagé, disons. J'ai trouvé que c'était une mise en scène extrêmement intelligente, bien faite, avec une esthétique que j'ai beaucoup aimée, mais je me suis tellement posé de questions sur des détails que je ne sais pas si le but d'une mise en scène, c'est de faire poser des questions en permanence aux spectateurs, mais bon.
Vous voulez dire que par moment, il perd, en tout cas vous, il vous a perdu un peu par moment dans
sa mise
en scène.
Oui. Alors, il y a des éléments très positifs. Cette idée de faire de la scène un bassin, en quelque sorte, avec de l'eau. Alors, chapeau pour les chanteurs, les danseurs qui participent et qui pataugent dans cette eau pendant toute la représentation. Mais ça, c'est un côté positif, j'ai trouvé.
Une bonne idée.
Ah oui, une très bonne idée. Alors, je n'avais pas compris que le fait de faire monter les chanteurs très souvent sur des espèces de tables, que c'était en relation avec l'Aqua Alta qui se passe sur la place Saint-Marc à Venise lorsque la mer envahit la place. Bon, il faut savoir, mais très bien. Alors, évidemment, le côté un peu provocateur de la mise en scène, c'est qu'il y avait beaucoup de nudité, mais ça, bon, on en a vu d'autres.
Surtout, on en a vu d'autres avec Olivier Py, donc de ce point de vue,
mais même avec d'autres.
Ne nous a pas surpris.
Non. Ce qui est un peu plus, intrigant ou gênant, c'est par exemple dans la danse des heures, le viol collectif auquel on assiste. Ça c'est un peu choquant, mais bon, pourquoi pas. C'est un peu une manière de souligner le côté pervers du milieu dans lequel tout cela se déroule. Et c'est un milieu pervers, donc effectivement. Alors sur le plan musical, moi j'ai beaucoup aimé le côté musical, l'orchestre sonnait très bien qu'il soit réduit par rapport à l'effectif d'origine qu'il faudrait. Mais j'ai bien aimé la direction de Roberto Rizzi Brignoli. J'ai trouvé que c'était à la fois lyrique, bien fait. Pour ce qui concerne la distribution vocale, alors il n'y avait que de grandes voix. Vraiment des voix. Alors, quelquefois, on aurait aimé qu'il y ait un peu moins de décibels, un peu plus de nuances. Mais ce sont incontestablement de grandes voix, à commencer par Béatrice Uria Monzon, dans le rôle-titre, donc, qui vraiment incarne tout à fait...
Oui, qui a beaucoup de présence sur scène.
Ah oui, une présence, et puis bon, très bien. Là, on aura donc Judith Koutasi qui chante le rôle du deuxième personnage féminin. Judith Koutasi qui chante avec aussi une intensité impressionnante.
Oui, très, très beau, ouais.
Et la Tchèque a très bien chanté, très bien joué. C'est un rôle un peu difficile, hein, effectivement, donc c'est très bien. Moi, j'ai beaucoup apprécié le ténor pour la représentation du 1er octobre à laquelle j'ai assisté, Ramon Vargas, qui est un de ceux qui a le plus nuancé dans son chant, ce soir-là en tout cas. Hein. Donc, très bien. Et puis, le vétéran Roberto Scandiuzzi, qui est venu remplacer Marco Spotti, qui était souffrant, qui n'a pas pu assurer le rôle. Donc, tout ça très très bien, hein, avec une prestation des chœurs impressionnante, hein, vraiment impressionnante.
Comme souvent.
Ah oui, oui, là c'était vraiment... tout à fait bien. Donc voilà, une représentation intéressante avec des petits détails sur lesquels je me pose toujours des questions.
Voilà, ça c'était l'avis de Serge Chosy. On va écouter maintenant celui de Serge Krichewski.
Oui, alors moi je n'ai assisté qu'à la pré-générale, donc il y a eu des changements entre-temps, hein, puisque justement Serge Chosy parlait de Roberto Scandiuzzi, que je n'ai malheureusement, parce que je l'aime beaucoup, hein, cette voix magnifique. Bon, il a remplacé effectivement Alvise, et la personne qui tenait le rôle d'Alvise, qui semblait souffrant, effectivement, à la pré-générale. Je crois qu'il est parti après, enfin à la générale.
Ah, c'est lui qui a chanté la pré-générale.
Oui, oui, il a chanté la pré-générale. Général, et il semblait pas très à l'aise. Bon, alors il a laissé dès sa place. Par contre, effectivement, j'ai aussi eu une sensation vraiment très homogène au sujet du plateau. J'ai beaucoup aimé la chanteuse qui chantait Laura, donc la mezzo, deuxième rôle. Bon, la Tchéka au début, effectivement, ce rôle de mère aveugle. Au début, elle avait quelques problèmes de justesse, mais une très belle voix, puis ça s'est arrangé après, et puis il y a eu encore quand même la générale, les premières pour se roder, une musique très intéressante. Bon, effectivement, bon, la diminution de l'effectif, je sais pas si elle... bon, c'était surtout dans les toutis, c'était un peu de cuivre en moins, peut-être de cordes, ça m'a pas paru manquer considérablement non plus, mais...
Et la mise en scène, vous, qu'est-ce que vous
La mise en scène, moi, j'ai trouvé ça très intéressant, dans le genre moderne, provoquant, un peu choquant, voilà, mais transposition, voilà, de l'Inquisition à l'époque, on va dire barbare, plus ou moins, ça évoque les temps nazis, enfin, on sait pas trop, les années 30, tout ce qui est, effectivement, ces dictatures très oppressives, très, très...
Je me demande si la scène du viol n'est pas une petite allusion aussi au salaud de Pasolini. C'est pas impossible, venant d'Olivier Py, ça se pourrait.
Alors, il y a Pierre-André Weitz qui a un rôle important dans tout ça, je crois.
Les décors et costumes.
Alors, les décors et costumes, mais certainement beaucoup d'idées. Effectivement, j'ai été très admiratif de ces performances aquatiques, je dirais, des danseurs aussi. Bon, moi, j'étais au parterre, donc je pense qu'il me manquait cette...
Ce surplomb.
Le surplomb pour voir l'eau,
absolument,
etc.
Et oui, parce que le plateau est obligé d'être horizontal, évidemment. Il ne peut pas être incliné.
Surtout quand il y a de l'eau, voilà. Mais donc ça devait être encore plus spectaculaire au premier balcon. En tout cas, j'ai bien vu le jeu des acteurs, Pierre-Yves Pruvot également, Barnaba, était très bien.
Je suis désolé, je n'ai pas parlé de lui, mais c'est peut-être le personnage le plus impressionnant.
Très grosse présence. Il était venu chanter au Clé de Saint-Pierre en 2002.
Mais il est de la région,
Pierre-Yves Pruvot. Un ami de Florence Fourcassier.
Mais il était venu aussi chanter Klingsor dans Parsifal.
Ah, c'est lui qui faisait Klingsor.
C'était lui qui faisait Klingsor.
C'était
déjà impressionnant. Mais là, vraiment.
Oui, il a fait un gros chemin. Et beaucoup de talent dramatique, talent d'acteur. Et Béatrice Uriamonzon, grosse présence. Voilà, encore très belle voix, très, très beaux aigus.
Eh bien, nous allons justement écouter encore une fois Béatrice Uriamonzon dans le rôle de la Gioconda, ici, dans la fameuse scène du suicide.
Thank you.
Suicidio, air célèbre de la Gioconda chantée par Beatrice Uria Monzon qui interprétait donc le rôle titre dans l'œuvre d'Amilcare Ponchielli au Théâtre du Capitole. Le prochain opéra est programmé du 19 au 25 novembre, c'est le Voïtsek d'Alban Berg qui va donner lieu aux prises de rôle très attendues de Sophie Koch et Stéphane Degout qui vont incarner les deux personnages principaux. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans cette émission. Retour maintenant sur le concert de l'Orchestre National du Capitole de samedi dernier à la Lograin. Il faisait partie du Sieg Happy Hour et il y avait deux œuvres au programme, dont une pour laquelle un soliste était invité, un tout jeune homme qu'on connaît bien à Toulouse et pour cause, parce qu'il y est né et qu'il y a fait presque toute sa formation musicale. Rappelez-nous qui était ce talentueux jeune musicien, Serge Chosy.
Eh bien, c'était un percussionniste de 24 ans, Aurélien Gignoux, qui a quand même gagné ses galons, on peut dire, lors de des victoires de la musique classique 2021, puisqu'il a été nommé révélation soliste instrumentale, et c'était la première fois qu'un tel prix était attribué à un percussionniste. Donc, bravo à Aurélien. Et donc, c'est lui qui a choisi la première œuvre de ce Happy Hour, et qui est une œuvre d'un compositeur aussi bien connu à Toulouse, Philippe Hurel, et qui s'appelle « Quatre variations ». Donc, et ce qui est une sorte de concerto pour vibraphone, et puis un ensemble orchestral avec flûte, hautbois, clarinette, cors, trompette, trombone, deux percussionnistes quand même, en plus dans l'orchestre, piano, violon, alto, violoncelle et contrebasse. Donc il y avait quand même du monde, même s'il n'y avait pas l'orchestre au complet, bien évidemment. Et donc les quatre parties, les quatre variations, sont un peu les quatre mouvements d'un concerto pour percussion et orchestre, donc avec beaucoup de couleurs, beaucoup de finesse, d'intelligence, de passages contrastés. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette œuvre, vraiment, dans laquelle Aurélien Gignoux, évidemment, se trouve très à l'aise.
Le Toulousain Aurélien Gignoux, qui joue une œuvre du Toulousain Philippe Hurel. Ah, oui. Il a joué un bis, ensuite.
Et oui,
un bis de percussionniste. On se dit, qu'est-ce que ça peut être, un bis de percussionniste?
Ah, ben oui. Eh bien, il a choisi un bis de Chick Corea, le Children's Song numéro 1, Chick Corea qui est mort il n'y a pas très longtemps,
oui,
d'ailleurs.
Oui, hein. C'est donc, un peu un hommage sans doute.
Oui, oui. Et donc il a joué ce Children's Song numéro 1 qu'il a ornementé de quelques improvisations de son cru, donc en quelque sorte. Et c'était très intéressant, très beau, avec des couleurs là aussi impressionnantes.
Seconde œuvre au programme, parce qu'il y en avait une autre tout de même, Scheherazade de Rimsky-Korsakov, dirigée par Kerem Hassan, on ne l'a pas cité, le chef qui était invité.
Bien sûr, oui, oui, citons-le.
Et apparemment, ça a été magnifique. Hein.
Vraiment magnifique. J'ai trouvé l'orchestre dans une forme éblouissante. C'était rutilant. Et Dieu sait si l'orchestration de Scheherazade est rutilante, est belle. Et ben là, elle était vraiment à son aise, donc sous les doigts et les souffles des musiciens. Il y avait un très bel équilibre entre les vents et les cordes, et en particulier les cordes graves sonnaient de manière impressionnante. Hein. Là, moi j'ai trouvé ça formidable. Et alors, rendons hommage à tous les solos instrumentaux, et Dieu sait s'il y en a dans cette œuvre,
oui.
À commencer par le cors, le hautbois, le basson. Il y a un trait de basson incroyable qui a été magnifiquement joué. L'ensemble des musiciens, vraiment, là, se sont retrouvés.
Il y a quelques solos de violon aussi.
Ah ben, je voulais terminer par ça.
D'un certain Christy Jessy.
Un certain Christy Jessy, donc, qui est le super soliste de l'orchestre, et qui a joué le rôle de la belle Scheherazade de manière magnifique. Avec un phrasé, une subtilité, une finesse, avec des aigus d'une pureté incroyable. Donc, vraiment, bravo à lui. Hein.
Et l'Orchestre National du Capitole et ses musiciens toujours au top. Serge Krzyzewski, on va reparler d'Aurélien Gignoux, parce que je ne veux pas dire que vous l'avez vu naître, mais presque.
Si,
parce
si,
que
si,
c'est
si.
Un enfant de l'orchestre, Aurélien Gignoux. Hein, ses parents
Absolument.
Se sont rencontrés à l'orchestre.
Voilà dont le papa, effectivement, est oboïste.
En plus,
mes collègues,
un
voilà,
fils d'oboïste.
Laurent Gignoux.
Vous
voilà.
Vous rendez compte.
Donc, il était bien parti. Bon, mais il est dans une grande famille extraordinaire de musiciens, la famille Robillard et Gignoux aussi. Bon, mais la famille
L'organiste.
De Cécile Robillard, voilà, Louis Robillard, le petit-fils de Louis Robillard. Et puis, beaucoup de tantes, d'oncles, dans tous les milieux. Alors, bon, Yvan Robillard, j'en fais un petit article, qui lui est pianiste de jazz. Donc, Aurélien, il a vraiment les oreilles grandes ouvertes sur tous les styles de musique. Alors, il vient de rentrer, ça vous le saviez probablement, à l'ensemble intercontemporain. Donc, après ce prix extraordinaire, extraordinaire.
Bon, début
à
de carrière
Munich,
fulgurant.
Deuxième prix, début de carrière très très fort. Et on est tous très heureux parce qu'il est vraiment tellement gentil. Et puis voilà, on l'a vu grandir. Il a été porté par David Dubois, Jean-Sébastien Borsarello, beaucoup de très bons percussionnistes qui l'ont accompagné.
Nous, on l'avait découvert, je ne sais pas si vous vous rappelez, Serge, au Clé de Saint-Pierre, il avait 14 ans, je crois.
Ah oui, oui, il est tout jeune. Hein, là,
comme auditeur.
Il jouait avec sa mère, Cécile Robillard, qui était à la flûte.
D'accord.
C'est un programme où il y avait du Ravel, je crois, de mémoire.
Oui. D'accord.
Oui, oui. Et il était là.
C'était sa première intervention.
Oh, je crois que c'est la première fois qu'il jouait.
Il doit être l'aide-renette, un arrangement de ma Merlois.
Je crois qu'il y avait des choses comme
ça. C'est ça, oui, c'est ça, exactement.
Parce que ma Merlois, ça l'a rendu célèbre. Bon, il y a une de ses épreuves de l'ARD de Munich.
Absolument.
Il fait ma Merlois tout seul.
On trouve sur YouTube, On trouve sur YouTube. Eh bien, voici un petit aperçu de ce que sait faire Aurélien Gignoux avec ses percussions. Et puisqu'il a joué du Philippe Hurel samedi à la Lograin, nous allons l'écouter dans une interprétation d'une œuvre d'un autre compositeur français contemporain, Tribe pour Marimba de Christian Loba. Tribe, pièce pour marimba composée par Christian Loba et interprétée ici par le jeune percussionniste toulousain Aurélien Gignoux qu'on espère revoir rapidement à Toulouse. Il reviendra très vite je pense et nous l'inviterons dès que possible dans cette émission bien sûr. Nous allons rester avec les musiciens de l'Orchestre National du Capitole puisque nous allons parler du récent concert des Clés de Saint-Pierre donné lundi à Saint-Pierre-des-Cuisines. Une fois n'est pas coutume, c'était le répertoire baroque qui était à l'honneur avec un programme très original. Le moins qu'on puisse dire c'est qu'on y a fait des découvertes.
Ah tout à fait, et puis il faut signaler que c'était le concert de reprise de la saison des Clés de Saint-Pierre qui n'avait pas joué ses musiciens pendant...
Comme d'autres, ils ont été très affectés bien sûr par la crise sanitaire, il y a beaucoup de concerts qui ont sauté la saison dernière malheureusement.
Et donc pour ce programme baroque, donc effectivement, il y avait 5 musiciens de l'orchestre, des musiciens bien connus pour ceux qui sont les déshabitués. Il y avait Gabriel Zanneboni et Louis Seguin, qui sont les deux oboïstes de l'orchestre.
Deux camarades de pupitre de Serge Krichetsky.
Exactement. Puis Marion Lefort au basson, qui joue surtout du contrebasson solo à l'orchestre, mais là qui jouait du basson. Thomas Dazan, donc, qui appartient au pupitre des violoncelles. Et la claveciniste Yuka Manjo Ishikawa, qui occupe les fonctions d'organiste à l'église de Croix-Dorade. Donc voilà, ces musiciens étaient réunis pour un programme inhabituel pour leurs instruments, puisqu'ils ne sont pas vraiment ce qu'on appelle
des baroqueux.
Et ce qui était intéressant, c'était qu'on y faisait des découvertes. Alors certes, il y avait une pièce de Vivaldi. Là, c'est pas une vraie découverte, d'autant plus qu'il s'agissait de variations, de 20 variations sur le thème de la folie.
Bon, alors, on l'a reconnu tout de suite.
On l'a reconnu immédiatement. Et c'était magnifique, d'ailleurs, avec les deux hautbois et le continuo. Mais il y avait des œuvres aussi, alors de Zelenka, on connaît un peu mieux. Jan Dismas Zelenka, c'est le plus grand compositeur baroque tchèque, et là, avec une sonate, avec tous les musiciens réunis, très virtuose. La sonate, et d'ailleurs, d'une manière générale, toutes les pièces étaient extrêmement virtuoses, surtout pour les instruments avant, mais même pour le violoncelle, puisqu'il y avait, c'est dans certaines variations de Vivaldi, des performances à accomplir, ce qu'a fait Thomas Dazan très très bien. Et donc, beaucoup de brio avec des compositeurs, alors que j'avoue avoir découvert un certain Johann Friedrich Fasch et un autre qui s'appelle Giovanni Benedetto Platti.
Jean-Benoît Platy.
Enchanté. Oui. Et donc, je découvrais avec des choses extrêmement intéressantes. Et donc, c'était très bien que les musiciens investissent un répertoire peu fréquenté par les musiciens, y compris les musiciens baroqueux. Donc, vraiment une belle soirée avec un final très brillant. Donc, dans une sonate pour deux hautbois, basson et basse continue de ce fameux Johann Friedrich Fasch. Et donc, ils ont dû bisser l'allegro final, même tellement le public était ravi de leur performance.
Zelenka, Platy, Fasch, Telemann et Vivaldi. Bon, voilà.
Ah oui, il y avait quand même du Telemann, oui, qui est quand
ne
même
l'oublions pas.
Un peu plus connu, oui.
Alors, Serge Krzyzewski, bon, le concert découverte, entre guillemets, c'est un peu quand même une des vocations des Clés de Saint-Pierre, nous faire découvrir ou des œuvres peu connues de grands compositeurs, ou carrément des compositeurs quasi inconnus.
Oui. Bah effectivement, alors l'année des 20 ans, la saison des la 20e saison
a été tronquée.
Alors elle a été tronquée, mais bon, on avait quand même mis en avant des compositeurs vraiment comme Martin Windemith, enfin oui. Il y a eu le Pierrot Lunaire, enfin des choses qui sortent de l'ordinaire pour une saison de musique de chambre et la nôtre en particulier. Bon là, il se trouve que si je ne me trompe pas, Marion Lefort a une inclination particulière pour la musique baroque. Alors elle a proposé ce programme avec la sonate la 5e de Zelenka qui est un marathon hein, pour le bassoniste en particulier, mais enfin pour tous les instruments, et qui est très remarquable, qui a été un peu redécouverte dans les années 70-80, notamment à travers le travail de Heinz Holliger. Et donc, voilà, aussi Klaus Thunemann, qui l'ont beaucoup interprété, c'est une magnifique sonate. Et puis, effectivement, des compositeurs autour satellite. Alors, bon, Zelenka était un original, hein, qui a écrit un cycle de 6 sonates dans laquelle on trouve celle-ci.
Alors, puisque vous en parlez, parmi les découvertes de cette soirée des clés, il y avait donc une œuvre du compositeur tchèque Jan Dismas Zelenka, sa sonate en fa majeur pour deux hautbois, basson et basse continue, dont voici le premier mouvement Allegro, interprété ici par l'ensemble Zefiro. Le premier mouvement Allegro de la sonate en fa majeur pour deux hautbois, basson et basse continue de Jan Dismas Zelenka, interprété par l'ensemble Zefiro, une des œuvres jouées au récent concert des Clés de Saint-Pierre, dont le prochain rendez-vous, notez-le, est programmé lundi 15 novembre à Saint-Pierre-des-Cuisines, où l'on va jouer cette fois-ci des trios avec piano. C'est une Schubertiade d'automne et il y aura entre autres le fameux opus 100 de Schubert, autre concert sur lequel nous voulions revenir, celui de l'ensemble Correspondance mardi soir, encore à Saint-Pierre-des-Cuisines, mais pour le compte de la saison des Arts Renaissants. C'était le dernier parmi ceux qui ont été reportés la saison dernière, la saison 21-22 des Arts Renaissants n'ayant en fait pas encore commencé. Il s'agissait encore d'un programme baroque, mais français, celui-ci entièrement consacré à Marc-Antoine Charpentier, Serge Chosy.
Oui, oui, et puis là, joué pour le coup uniquement par des instruments anciens, avec le diapason d'époque 392 Hz, et avec une qualité des instruments historiques impressionnante, hein, vraiment très belle, avec des voix et des voix, puisqu'il y avait 8 chanteurs et 8 musiciens, y compris le chef, donc Sébastien Dossé, qui dirigeait tout en jouant de l'orgue positif et du clavecin. Donc, il avait beaucoup beaucoup de travail. Mais on s'est aperçu qu'il dirigeait surtout du regard. Hein, donc,
oui, bon, ils se connaissent par cœur, je pense.
Ils n'avaient pas besoin de battre la
mesure. C'est une musique
qu'ils
ont beaucoup joué. Voilà. Ils ont d'ailleurs enregistré un CD. Hein.
Oui. Alors, c'est un très bel ensemble, à la fois instrumental et vocal. Moi, j'ai beaucoup apprécié les différenciations entre les voix. Chaque voix est caractéristique et elle ne se ressemble pas du tout. Il n'y a pas d'homogénéité artificielle dans le chœur. Si on peut parler d'un chœur à 8 voix. Donc, vraiment quelque chose de très intéressant, avec en particulier un autocontre magnifique, un vrai autocontre à la française, c'est-à-dire ténor aigu et pas contre-ténor. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant, avec uniquement des œuvres de Marc-Antoine Charpentier. Le programme était intitulé « Litanie de la Vierge », et cette litanie de la Vierge terminait le concert, justement, mais avant ça, il y avait de nombreuses œuvres, avec notamment « Le Miserere des Jésuites », qui est vraiment une œuvre déclamatoire très forte et très développée, hein, une œuvre longue, relativement longue, les autres étaient beaucoup plus courtes, avec des extraits de motets, de répons, tous évidemment liés à la Vierge Marie, donc avec surtout cette litanie de la Vierge, pièce finale qui est vraiment somptueuse, avec une polyphonie d'une richesse et un contrepoint très détaillé, très, très expressif. Un beau moment que ce concert, avec des œuvres qu'on ne connaît pas beaucoup, qu'on ne joue pas très souvent. Il y avait notamment un Stabat Mater. Alors, Dieu sait si des Stabat Mater...
Oui, il en existe.
Il y en a eu, il existe pas mal. Mais là, c'était quelque chose d'un peu particulier, avec surtout l'ensemble vocal qui exprimait cette espèce de douleur élégiaque de manière très convaincante.
Alors Sébastien Dossé, on va le préciser, ouais, c'est un ancien élève d'Yves Rechsteiner que nous recevions la semaine dernière, le directeur artistique de Toulouse des Orgues, festival qui a lieu en ce moment. Eh bien voici un extrait des Litanies de la Vierge de Charpentier, interprété par l'ensemble Correspondance, le deuxième mouvement Speculum Justitiae. Le deuxième mouvement, Speculum Justitiae des Litanies de la Vierge de Charpentier, interprété par l'ensemble Correspondance. Pour terminer cette première partie d'émission, petite précision, Serge, aussi importante, c'est la prononciation du latin, celle de l'époque. Hein.
Absolument, c'était la prononciation du latin par les Français, et ça n'était pas du tout la même chose que lorsque le latin était prononcé par des Italiens. Et donc le U reste U, Anus Dei, Dominus. Et il n'y a pas le ou tel qu'on le pratique actuellement.
Et on ne dit pas speculum, on dit speculum.
Voilà.
Voilà, c'est pour ça que j'ai prononcé comme ça, sans doute pas
bravo,
très bien.
Bravo.
Petite pause avant de nous retrouver dans quelques secondes avec Serge Chosy et Serge Krichewski pour l'agenda de Mélomanie. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
L'agenda de Mélomanie, toujours avec Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et avec Serge Krichewski, oboïste à l'Orchestre National du Capitole, chef de l'orchestre En Harmonie, président du Festival Musique au Palais et vice-président des Clés de Saint-Pierre. Et bien, dès ce samedi 9 octobre, il y a déjà un événement très important dans notre agenda avec la venue à Toulouse de Christian Zimmermann, le pianiste polonais, donne un récital à 20h à la Lograin dans le cadre de la saison des grands interprètes. Et quand je dis que c'est un événement important, c'est parce que Zimmermann est un grand musicien, bien sûr, mais aussi parce que c'est un musicien rare qui se produit assez peu en public et qu'on n'a pas vu à Toulouse depuis un bon moment. Serge Chosy, quel programme a-t-il joué ce samedi à la Lograin, ce musicien qui se fait si rare et de plus en plus rare, je crois?
Oui, il ne dépasse pas 50 récitals ou 50 concerts même par an. Donc, ce qui est rare parmi les grandes vedettes du classique. Là, en l'occurrence, il interprétera la partita numéro 1 de Bach, puis ensuite les trois intermédies de l'opus 117 de Brahms, pièce que j'adore, qui est une pièce crépusculaire magnifique, et puis la troisième sonate de Chopin. Il y a du Chopin, évidemment, puisque à 18 ans, il a été le lauréat du concours Chopin de Varsovie. Donc,
au début de sa carrière, il jouait quasiment que du Chopin.
Oui, il a élargi son répertoire largement.
Alors, donc on ne l'a pas vu depuis 2013, hein,
depuis
crois,
2013. Il était venu en 2010, il n'avait joué que du Chopin. En 2013, il avait joué plusieurs compositeurs, dont Szymanowski, et déjà du Brahms, oui.
Alors, il a une particularité, c'est qu'il est très exigeant et il se déplace avec son piano.
Son propre piano.
Qui monte, qui démonte, jusqu'à ce qu'il ait ce qu'il veut.
Exactement. Donc, et je me souviens d'un concert pendant lequel le changement de compositeur avait entraîné un changement du clavier. Donc, un technicien était venu avec lui retirer le clavier de son piano pour en remettre un autre.
Ça, c'est incroyable. Alors, ça rappelle un peu...
Perfectionniste.
Son aîné, Michelangeli. Serge Krichewski, Zimmermann, parmi les pianistes d'aujourd'hui.
C'est un très grand que j'admire énormément, et oui, que j'ai vu effectivement, les deux fois où il est venu, les deux fois précédentes, oui.
Pourquoi l'aimez beaucoup?
Parce que ce que vous disiez, la précision, la fougue aussi, et puis l'évolution de son répertoire, effectivement. Alors, il a commencé beaucoup avec Chopin, il a enregistré aussi les sonates de Brahms quand il était très jeune. Après, il a fait beaucoup de Beethoven, et puis après, il y a eu tous les préludes de Debussy, tous les Debussy qu'il a joué à Toulouse, d'ailleurs,
oui, exactement.
Hein, je pense.
Hein,
oui. Et puis, effectivement, Szymanowski, enfin, les compositeurs polonais.
Je ne crois pas qu'il ait jamais joué avec l'Orchestre du Capitole, des concertos,
Non.
Alors, même s'il vit en Suisse, à Bâle depuis longtemps, Christian Zimmermann est polonais et personne ne s'étonnera, je l'ai rappelé il y a quelques instants, qu'il ait beaucoup joué la musique de son compatriote Chopin au long de sa carrière. Ce samedi, il va jouer à la Lograin la sonate numéro 3. On va l'écouter tout de suite interpréter un extrait de cette pièce, le final Presto non tanto.
Thank you.
Le quatrième mouvement final, Presto non tanto de la sonate numéro 3 de Frédéric Chopin, interprété par Christian Zimmermann, une des pièces au programme du récital qu'il donne ce samedi 9 octobre à la Lograin à 20h, dans le cycle des grands interprètes. Et le week-end va être chargé parce que dès le lendemain, dimanche 10 octobre à 16h à la Chapelle des Carmélites, est programmé le premier concert de la saison Toulouse Guitare 21-22. Un grand guitariste va se produire à cette occasion pour la première fois à Toulouse. Serge Chosy, c'est l'Argentin Roberto Ossel, avec un programme qui devrait être largement dédié à son compatriote Astor Piazzolla, dont nous célébrons les 100 ans de la naissance en 2021.
Oui, en effet, pas seulement, puisqu'il y a des œuvres de Benoît Albert, de Egberto Gismonti, de Miguel Llobet, d'Antonio Lauro, de Richard Bennett, donc d'Astor
Piazzolla. Donc il a beaucoup élargi
complètement.
La programmation.
Inès Badallo et Saül Consentino. J'avoue ne pas connaître tous ces compositeurs.
J'en connais quelques-uns.
Quelques-uns, mais pas tous.
Rien, loin de là.
Donc on est très heureux de recevoir, grâce à Thibaut Garcia, Roberto Ossel pour la première fois à Toulouse.
Roberto Ossel, argentin, qui vit en France, depuis assez longtemps. Donc j'imagine qu'il parle très bien notre langue. Il a enseigné longtemps en Allemagne, à Cologne. Sachez qu'il a donné une masterclass le 8 octobre au Conservatoire de Toulouse avec les élèves de la classe de guitare de Benoît Albert, justement. Il y a aussi, ne l'oublions pas, avant le concert de Roberto Ossel, il y a un jeune guitariste qui va se produire.
Ah, oui.
Et vous le connaissez, Serge, parce que vous l'avez vu.
Oui, bien sûr.
Virgile Barthes
s'est déjà produit dans ce même cadre. C'est un jeune guitariste très doué et donc on est très heureux de le retrouver. Alors, je trouve cette idée de Thibaut Garcia de faire précéder la venue d'une grande vedette de la guitare par un jeune élève. Donc c'est vraiment une excellente idée qu'il faut perpétuer.
Virgile Barthes qui vient d'entrer au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.
Et oui.
Il y a longtemps, il y a eu Thibaut Garcia. Mais avant, je crois que ça remontait à Paul Ferré. Hein. Ça datait vraiment. Mais on voit aussi le travail magnifique, entre autres, la classe de guitare du Conservatoire de Toulouse. Les pianistes, on le sait depuis un moment. Mais aussi la classe de guitare. Alors, Roberto Ossel a sorti il y a 2 ans un CD intitulé Tangos et Milongas. Et il a interprété dessus une très jolie pièce. Elle a pour titre Tango Barocco numéro 3. On l'écoute. Thank you. Tango Barocco numéro 3, extrait du CD Tangos y Milongas de Roberto Ossel. Le grand guitariste argentin est à l'affiche du concert d'ouverture de la saison 21-22 de Toulouse Guitare. Et c'est ce dimanche 10 octobre à 16h à la chapelle des Carmélites. Le dernier événement que nous tenions à vous annoncer dans cette émission, c'est le prochain concert de l'Orchestre National du Capitole, vendredi 15 octobre à 20h à la Halle aux Grains. Un concert dont le programme a été intitulé « Un souffle venu de l'Est » avec deux invités, un chef et un violoniste dont je vais laisser le soin à Serge Chosy de révéler l'identité.
Eh bien, le chef est déjà venu, il s'appelle Leo Quackman, et le violoniste est Michael Barenboim, un nom bien connu.
Ça me dit quelque chose, Barenboim.
Oui, oui, vaguement, oui, effectivement. Oui.
Bah, c'est le fils de Daniel, voilà, comme c'est, ça, c'est dit.
Voilà, voilà, c'est dit. Et donc, ils viennent jouer un programme qui débute par une œuvre tout à fait originale, une œuvre de Chen qui s'appelle Wu Xing. Excusez-moi pour la prononciation. Ensuite, c'est beaucoup plus classique puisqu'il s'agira du deuxième concerto pour violon de Mendelssohn. Et enfin, les tableaux d'une exposition de Moussorgski, je suppose, dans l'orchestration de Maurice Ravel.
En général, c'est celle qui est retenue maintenant.
Mais vous savez qu'il y a d'autres orchestrations
sûr,
de ces tableaux
sûr,
d'une exposition
sûr.
Qu'on n'entend jamais. Alors, je ne sais pas.
Ce sont des pièces pour piano à l'origine.
Bah donc, oui, voilà,
je crois que Ravel les a orchestrées en 1922, à vérifier.
Il n'était pas le premier.
Voilà. Non, il n'était
pas le premier.
Non,
il n'était pas le premier.
Dernier.
Mais enfin, c'est un orchestrateur de génie. Donc, en général, c'est son orchestration qui est retenue en concert. Alors, ce Leo Quackman, c'est un chef originaire de Macao,
oui.
c'est pas commun.
L'enfer du jeu.
Et Serge Krzyzewski, vous avez déjà eu l'occasion,
non
pas d'être dirigé par lui, mais...
beaucoup de bien, mais j'ai pas encore eu, justement, je suis impatient d'être à la semaine prochaine pour voir.
Alors, cette œuvre, Wu Xing, je ne sais pas si on prononce bien l'un et l'autre, de Qigong Chen. Ce Qigong Chen, on commence maintenant à être un peu habitué à lui, parce que tous les ans, on a presque des œuvres de lui, parfois qui sont créées, même par l'Orchestre du Capitole.
Exactement. Oui.
Et il a une histoire très liée à la France, Qigong Chen, tout en étant chinois. Bah, je crois que ça a été le dernier élève d'Olivier Messiaen, si je ne me trompe.
Ah, mais oui, en effet, oui. Bravo, Eric. Oui, en effet, oui.
Dernier élève de Messiaen. Bon, quant à Michael Barenboim, il est déjà venu. Hein, jouer
il est déjà
à Toulouse.
Venu, oui, Michael Barenboim.
Serge Krzyzewski apparemment n'a jamais joué avec lui.
Non, je voyais son nom pour la première fois, mais enfin j'ai mal noté.
Ah, je crois bien, sauf erreur de ma part. Hein.
Quant au tableau d'une exposition, en revanche, vous avez eu l'occasion de jouer très souvent, parce que c'est un je ne veux pas dire que c'est un standard de l'Orchestre du Capitole, mais un petit peu, d'autant plus qu'avec un chef russe.
Surtout un chef russe qui a une mission pour la musique française. Ça réunit, c'est l'œuvre parfaite, puisque c'est une œuvre de russe pour piano, orchestrée par un compositeur français.
Oui.
Donc, dans toutes les tournées, partout où on peut, on la joue, et puis il faut dire qu'après le Boléro, c'est la seconde œuvre de Maurice Ravel, la plus interprétée, qui était très très haut dans le top 20 pendant beaucoup d'années, jusqu'à il n'y a pas longtemps.
Alors, j'ignorais que les tableaux d'une exposition de Moussorgski était l'œuvre la plus jouée
de Ravel.
Par Ravel.
L'orchestration
après
de Ravel.
Après le Boléro.
Voilà, oui. Bah, c'est extrêmement souvent interprété. Hein, donc, cette œuvre qui était au départ une commande d'un autre russe, mais émigré aux États-Unis, Serge Koussevitzky, qui demande pour l'orchestre de Boston à Ravel d'orchestrer cette œuvre.
Voilà, les tableaux d'une exposition de Modeste Moussorgski, une œuvre que l'Orchestre National du Capitole a donc souvent jouée sous la direction de Tougan Sokiev. On les écoute interpréter ici un des tableaux les plus célèbres, les plus majestueux, la Grande Porte de Kiev. impressionnante, La Grande Porte de Kiev, dernier des tableaux d'une exposition de Modeste Moussorski dans l'orchestration de Maurice Ravel, interprété par l'Orchestre National du Capitole sous les directions de Tougan Sokiev, une des œuvres au programme du concert que donne l'ensemble symphonique toulousain le 15 octobre à la Halle au Grain. Serge Krzyzewski, un mot sur cette orchestration de Maurice Ravel, pourquoi c'est celle qui fait référence aujourd'hui ?
Ben parce que tout simplement, Ravel est un des plus grands orchestrateurs du début du XXe siècle et il a lui-même, d'ailleurs, il y a une part importante de son œuvre qui consiste en des orchestrations de ses propres œuvres pour piano. Alors, il s'est fait la main, mais il a très vite eu la main heureuse et il y a eu cette commande en 1922 de Serge Koussevitzky pour qu'il écrive une orchestration des tableaux de l'œuvre pour piano, qui était au départ, bien sûr, des peintures, des dessins auxquels Moussorgsky a donné vie. Hein, déjà, c'était son ami Victor Hartmann qui avait écrit. Et donc, après ça, 50 ans à peu près, Ravel a lui-même donné une nouvelle dimension à l'œuvre, vraiment fascinante, en donnant les couleurs. Hein. Alors, il y a un mélange des idées géniales hein, qui n'ont pas été approchées par les autres orchestrateurs. C'est une œuvre qui a été beaucoup orchestrée. Dès 1886, des élèves de la classe de Rimsky-Korsakov, première orchestration, pas longtemps après la mort de Moussorgsky, et puis après, au long du XXe siècle, voilà. Mais personne n'a égalé la perfection, l'invention. Ravel a rajouté des choses, hein, par exemple, dans le ballet des poussins dans leur coque, il y a des choses qui sont inventées. Il a supprimé une promenade, mais il y a un tel génie qu'il avait rodé déjà jusqu'à ce moment-là, qui trouve son grand épanouissement dans cette œuvre.
Et est-ce qu'on y trouve la couleur de Ravel ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'impressionniste dans son orchestration ?
C'est une question très difficile parce que, évidemment, l'œuvre pour piano a une énorme personnalité déjà. Et c'est une œuvre un peu massive déjà, écrite pour quand même l'instrument qui a la même sonorité homogène. Et donc, c'est juste, hein, on trouve un petit peu moins de l'essence de Ravel par lui-même, sauf dans la dimension vraiment du coloris orchestral, parce qu'il a su quand même développer un talent il avait une palette de coloris orchestral extrêmement variée et il l'a mise au service de Moussorgsky. Mais il y a quand même la structure de l'œuvre originelle qui est une œuvre de Moussorgsky pour piano, avec toutes les idées très nombreuses et fantastiques qu'il y a dans l'œuvre pour piano.
Donc ça reste quand même du Moussorgsky.
Oui, matinée, oui.
Coloré.
C'est vraiment c'est vraiment la rencontre de deux génies absolus, vraiment.
Oui,
bien, on va terminer là-dessus cette émission dont c'est la fin. Je vous remercie chaleureusement l'un et l'autre, Serge Chosy et Serge Krzyzewski, d'y avoir participé en y apportant votre expertise, une fois de plus très précieuse. Je rappelle donc le récital du pianiste Christian Zimmermann ce samedi 9 octobre à 20h à la Halle au Grain, dans le cadre de la saison des grands interprètes, avec un programme Bach, Brahms, Chopin. La billetterie et les réservations sont disponibles en ligne sur le site www.grandsinterprètes.com. C'est sur ce même site que vous pouvez acheter et réserver vos places pour le concert des King Singers, jeudi 14 octobre à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Concernant le concert de Roberto Ossel ce dimanche 10 octobre à 16h à la Chapelle des Carmélites, le premier de la saison de Toulouse Guitare, il faut réserver sur le site www.toulouseguitare.fr. Je signale aussi que l'Orchestre de Chambre de Toulouse est en concert les lundis 11 et mardi 12 octobre à 20h30 à Saint-Pierre-des-Cuisines, avec un programme dédié à l'âme de la musique russe, notamment à Tchaïkovski. Renseignements, réservations et achats des places en ligne sur le site www.orchestredechambredetoulouse.fr. Et puis enfin, je rappelle de nouveau le concert Un souffle venu de l'Est que donne l'Orchestre National du Capitole, vendredi 15 octobre à 20h à la Halle au Grain, sous la direction de Leo Kwokman et avec le violoniste Michael Barenboim en soliste invité. Au programme, il y a des œuvres de Qigong Chen, Félix Mendelssohn et Modeste Moussorgsky. Donc, pour y assister, je vous invite à réserver et acheter vos places en ligne sur le site de l'orchestre, www.onct.toulouse.fr. Merci à Christophe Aubry pour la réalisation de cette émission, dont le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui, comme d'habitude sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci de votre fidélité et excellente semaine musicale à tous.